C'est tout bon.
Donc, alors, il y a une question qui a été posée par Carla. Donc, on parle d'une société sans argent. Est-ce que c'est possible? Si oui, j'ai entendu parler du Mosica. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que c'est possible d'une société sans argent?
Une société sans argent, c'est aujourd'hui, à mon sens, possible, mais c'est quand même assez difficile d'embarquer tout le monde dedans. Puis il faut faire attention au piège du sans argent, parce que justement, il y a certaines personnes qui veulent nous supprimer notre argent, en tout cas liquide, qui est un moyen quand même de faire société qui est intéressant. Moi, je ne suis pas pro-argent, hein, c'est pas l'idée, c'est que juste si on se place d'un point de vue psychologique, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des habitudes, qui ont habitude de faire société ensemble. Si je remets un peu ma casquette sécurité publique, aujourd'hui, je dirais que la société française fonctionne en silo. Elle fonctionne en silo, donc il y a des quartiers riches, des quartiers pauvres, si je caricature au maximum. Il y a plein de silos comme ça, il y en a énormément, qui ont un seul lien, c'est l'argent qui circule entre ces silos. Si par exemple il y a un effondrement économique, que ça s'arrête, les gens se découvrent. Alors, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, et ça peut être les deux à la fois dans une même société.
Et est-ce que dans le cadre d'Existence B, du coup, on parle d'une société sans argent ou pas? Parce que je pense que si, c'est la question, c'est partie de la question. C'est est-ce que là, avec Existence B, on parle d'une société sans argent ou pas?
On n'est pas totalement sans argent, en tout cas dans la première phase. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont des réalités économiques et on ne va pas pouvoir nous prendre en charge leur réalité économique. Si, enfin, je veux dire, on ne se coupe pas
Mais...
complètement de la société. Donc s'il y a quelqu'un qui a à aller à l'hôpital ou qui a à avoir des soins qui ne sont pas prise en charge, nous on ne peut pas les priver d'avoir de l'argent, c'est pas possible parce que nous on n'aura pas un hôpital sur place. Il y a toutes ces relations-là où on est plutôt vraiment sur une transition, on est sur une hybridation. Le but c'est que les gens arrivent à se rendre compte que l'argent ça peut être quelque chose de formidable ou une chaîne aux pieds, ça peut leur permettre de réaliser des choses ou alors les limiter dans leur créativité et c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment de donner la possibilité aux personnes de faire société autrement. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. En tout cas, si le truc c'est un truc sans argent direct, non,
Non.
c'est pas sans
Ben non,
argent.
parce que c'est pas l'idée de faire un village refermé sur lui. Et donc, à partir du moment où on est en lien avec ce qu'on appelle l'existence A, qui est l'existence dans laquelle on est aujourd'hui, on a besoin d'argent pour être dedans. Ça fonctionne pas sans argent, en fait, on s'en rend bien compte. Et il y a aussi des expérimentations de groupes qui ont essayé comme ça de faire des trucs très fermés. Et finalement, ça finit à un moment donné par créer des tensions à l'intérieur du groupe, parce qu'en fait, bah, dès que tu sors de ton environnement dans lequel tu es peut-être bien sans argent, bah, tu as besoin d'argent juste pour prendre le train, aller voir ta famille,
Ouais,
comme disait Alexandre, pour aller à l'hôpital, pour enfin, y a des réalités, et puis
Et nous,
voilà.
on s'inspire beaucoup justement des expériences qui ont été faites. Alors, il y a des promesses qui sont très belles comme ça, c'est-à-dire on fait des trucs de transition, des communautés de transition, tout le monde est gentil, vous savez, quand on parle, on agite les mains comme pour faire les marionnettes pour être d'accord. Donc tout ça paraît super génial avec une communication non violente et on a découvert des cas de torture psychologique dans ce genre de communauté, parce que quoi? Bah justement, on n'est pas complètement déconnecté de l'existence A dans ces communautés, dans ces expériences-là. Et puis un jour, bah, les petits gars là, et les petites, enfin toutes les personnes qui constituent cette communauté, bon, bah, ils ont besoin de retourner dans l'existence qui n'est pas celle rêvée. Ils se retrouvent à piquer le travail en open source des gens qui, dans ce truc, dans cette communauté alternative, donnaient de bon cœur. Et pourquoi ils piquent ça? Pour justement après refinanciariser derrière, c'est-à-dire ils prennent dans l'open source pour aller mettre un coup de tampon, changer 2-3 virgules à la phrase et mettre un coup de tampon sur le concept. qui va leur permettre dans l'existence A de prendre le train, de faire. Donc nous, on ne veut pas de ça. Mmh. Nous, on s'inspire vraiment de ce qui est fait par les anges gardiens et d'autres expériences. J'en termine là-dessus. Intéressez-vous à la manne, c'est à l'encens Goël. Les gens vivent, commencent à vivre avec leur propre système. Et c'est totalement légal.
Et la manne, tu dis que je mette un lien pour ça.
Ouais. Alors, il y a un site. Alors, attends.
Ils vont au Super U, enfin, pardon, au 8 à 8 avec leur manne. Ils vont à la pizzeria avec leur manne. Ils vont la friterie. Bref, plus ça va, plus ça se développe, plus les gens acceptent de faire société autrement. Et plus ils ont moins ils ont besoin de l'euro. C'est-à-dire que plutôt que de donner du pouvoir d'achat, en fin de compte, cette méthode donne du reste à vivre sur un petit salaire. Et puis progressivement, ça permet carrément de s'affranchir partiellement des obligations dues à notre système existant. Hein. Voilà, c'est ça notre.
Donc l'argent, en fait, au sein d'existence B, pour se nourrir et se loger, il n'y a pas d'argent. L'argent n'est à prendre en considération qu'à partir du moment où il y a des relations avec l'existence A. C'est ça, en fait.
Oui, mais par exemple, dans un but d'intégration sur le territoire, nous, ce qu'on veut ouvrir, c'est aux marchés locaux. D'accord ? Donc, des personnes qui, dans les environs, les communes environnantes, produisent de la nourriture, ils vont pouvoir venir sur le terrain d'existence B et vendre leurs produits. Et ils pourront vendre en euros, en manne, par exemple, ou en G1. La monnaie G1, c'est une monnaie où, pareil, tous les jours, vous avez le droit à un revenu universel que vous créez vous-même. Voilà. C'est tout un tas de systèmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir, justement, faire découvrir un autre rapport à l'économie. On peut avoir d'autres jeux de rôle. Soit on continue avec le monopoly actuel, où 1% des entreprises les plus riches captent toute la production financière, ou soit on décide de s'affranchir de ça et même de prendre le même billet d'euro, hein, par exemple, mais mettre un petit symbole ou alors une gommette sur le billet d'euro et ne faire tourner sur un secteur très court. Bon, bah voilà, c'est. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les expérimentations. On veut rester le plus pragmatique possible et pour boucler sur le début. Ce qui nous est important, c'est que les petites personnes âgées ne soient pas complètement encore affolées sur un autre mode de société. On pense aux personnes les plus vulnérables qui ont déjà eu du mal à se mettre. Du franc à l'euro, enfin de l'ancien franc au franc, du franc à l'euro. Et là, c'est possible hein, qu'elles n'utilisent plus du tout d'argent, mais on va d'abord les habituer à d'autres modes de société.
Ok, il y a Cap qui avait Cap qui a mis un lien pour les low-tech. Cap, je ne sais pas si tu as un micro parce que tu as mis ça en question, mais je vois pas de question par rapport à ça. Et si tu veux poser la question que tu as mis par rapport à. Toute la partie administrative. Cap, je vois ton micro qui s'active, mais je t'entends pas. Bon, okay. Je pose la question, et si ton micro s'active, Cap, apporte des précisions par rapport au lien que tu as mis sur les low-tech. Donc la question de Cap, c'est l'administratif et la bureaucratie en général bloquent-elles dans l'avancée de votre projet, considérant le niveau d'urgence à proposer des solutions comme Existence B.
Vous avez le droit à l'expérimentation des collectivités territoriales. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Il faut vraiment s'y intéresser, puisque ça a encore évolué au début de cette année, je crois que c'est en février, et vous avez le droit d'expérimenter des choses.
Vas-y. Après, pour nous, ouais. La question, c'est pour nous. Là, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas qu'on est bloqué, mais on n'est pas sur les mêmes rythmes, clairement. C'est aussi pour ça, on commence à parler un petit peu de la suite, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille maintenant sur un projet d'entreprise pour pouvoir aussi en partie financer une partie la création d'Existence B par nous-mêmes, sans attendre non plus des subventions, des financements.
Alors, je crois que la question était plus sur les blocages administratifs.
En fait, ça souligne l'urgence des solutions et le fait de mettre en place des solutions comme Existence B. Est-ce que toute la partie paperasse administrative bureaucratique, est-ce que ça permet d'avancer efficacement ou pas?
Je ne sais pas si c'est administratif, en fait. On a des blocages plutôt parce que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a découpé le projet, parce que c'est un projet qui a une grosse ampleur et qui fait un petit peu peur à des maires notamment. Parce que quand on arrive dans une commune de 600 habitants, se dire qu'il va y avoir 150... Alors, ils le comprennent comme ça, alors que ce n'est pas l'idée, mais eux comprennent, il va y avoir 150 nouvelles personnes qui vont débarquer tout d'un coup. L'idée, c'est sur la comment dire, le... pas ce mot, sélection, je trouve pas d'autres mots, mais pour les participants au projet, c'est plutôt de trouver un maximum de gens dans le village lui-même et puis ensuite sur le territoire le plus proche possible.
La commune, le département, il faut que ce soit des gens qui connaissent déjà leur territoire. Nous, ce qui nous intéresse pas, c'est ramener, je vais caricaturer, vous m'en voudrez certainement, mais on ne veut pas leur donner la sensation aux élus qu'on ramène plein de néo-ruraux en campagne. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il y a cette problématique de gens qui débarquent sans être informés de ce qu'est le territoire et c'est vraiment, ça crée des tensions parfois. Alors, on ne va pas développer là-dessus, mais donc nous, l'idée avec Existence B, c'est de prendre un maximum de personnes du territoire qui sont intéressées à participer à cette expérimentation. Le mot expérimentation, j'aime pas trop non plus parce qu'on n'est pas sur un laboratoire avec des cobayes, hein. On est vraiment sur quelque chose de très convivial et puis se donner le droit de faire société autrement, c'est vraiment le principe de fond. Alors, au niveau des blocages administratifs en eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de blocage administratif, hormis quand on demande des subventions, ça c'est une catastrophe, ça met 100 ans. Toujours un papier, il faut faire des papiers, c'est long, c'est chronophage, bon bref. Mais c'est beaucoup plus sur les... Il faut lever les freins, il faut passer du temps. Donc c'est beaucoup plus dans le relationnel que dans l'administratif que ça se passe. Quand les gens sont contents, quand les élus sont contents, ils se disent « Ah, c'est bon !» Ils remplissent tellement toujours les mêmes formulaires que c'est pas un problème de remplir un formulaire en plus. Là, le problème, c'est l'approche. C'est pour ça qu'on est un an après notre première interview sur Thinkerview et on est toujours... prendre notre temps, parce que ce gros projet, bon, il nous tient à cœur d'être mené de manière pragmatique et bien accueilli. Parce que si vous êtes mal accueilli, si vous êtes sur un territoire, après, vous avez les pires ennuis.
Il ne faut pas que ça se fasse au forceps.
Voilà, il ne faut pas que ça se
fasse... Si c'est des liens, nous, la relation de confiance.
Est-ce que du coup, pour participer à Existence B, est-ce que des personnes qui viennent de ville auraient moins de chances de pouvoir intégrer le projet que des gens qui viennent déjà de la campagne? Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? C'est la réponse qui a été apportée.
C'est pas tout à fait ça, c'est plus que on va vraiment chercher à aller chercher des gens le plus proche possible de l'endroit où on va s'implanter. C'est plutôt lié au territoire où va s'implanter Existence B.
À l'exception près, pour des compétences, là, comme vraiment, il faut absolument qu'on arrive à prouver, que tous, les uns pour les autres, on arrive à se prouver qu'on peut faire société autrement. Et des fois, on ne trouvera pas toujours les compétences sur le territoire lui-même. Mmh. Et donc là, pour ces raisons-là, bien sûr qu'il va y avoir des ouvertures. Des ouvertures pour que quelqu'un qui sait, par exemple, faire de l'impression 3D de chanvre, qui sait créer c'est des compétences particulières, on ne va peut-être pas les trouver sur le territoire lui-même. Voilà, donc, on ne ferme pas les portes, et c'est vrai que pour des questions de gouvernance, d'implantation, et le fait de rassurer les personnes des alentours, on veut privilégier les gens du territoire. Sachant qu'Existence B se veut aussi open source. Sachant que Existence B veut aussi que ça puisse inspirer d'autres à faire soit exactement la même chose, soit inspirer d'autres à faire à peu près la même chose, ou en tout cas inspirer. Et nous, ce qui nous intéresse de donner un open source, c'est le côté gouvernance, les découvertes qu'on a faites sur le low-tech et ainsi de suite. Et à chaque fois, un territoire est un territoire. Et nous, on va dégrossir le boulot sur les grandes lignes, avec ce qu'on va faire sur Existence B. Mais si on est au nord, on n'a pas les mêmes terres que quand on est au sud. Donc, par exemple, rien que sur l'alimentation, si on réussit des choses dans le nord de la France avec Existence B, est-ce que c'est une règle absolue dans le sud ? Ben non, à chaque fois, il va falloir réadapter au territoire.
Il y a une question, une autre question de Carla qui demande le niveau d'interaction entre Existence B et l'extérieur.
Il est total le niveau d'interaction parce qu'on donc, on vient sur la partie alimentaire, on en a déjà parlé, on vient vraiment travailler avec tous les producteurs aux alentours, au niveau de, comment dire, de par exemple organiser des festivals d'art, des événementiels. Et même donc on a dans les projets l'idée ce serait d'avoir un bar et un restaurant, c'est que ça puisse être ouvert à l'extérieur. Alors après il y a des sujets de quand même de cadrer bah, quand c'est ouvert totalement à l'extérieur pour que juste les gens se sentent aussi
chez eux
parce que bah, les familles ou les personnes qui vont vivre là doivent aussi avoir une intimité qui est respectée. Mais c'est complètement ouvert à l'extérieur. Il faut vraiment voir ça comme un village. Un village, à la fois les gens ont chacun leur petite maison, peuvent être chez eux, mais c'est ouvert, n'importe qui peut venir dans votre village.
Et voilà, du coup, en fait, on en vient à une autre question chronologiquement qui est un peu plus basse, mais qui demande du coup la différence qu'il y a entre Existence B et un éco-village.
Le côté... C'est le côté plus intégratif. De ce qu'on a vu, nous, on a souvent remarqué que c'était à peu près les mêmes catégories socioprofessionnelles qu'on retrouvait dans les éco-villages. Des gens qui ont compris qu'il y avait un problème, qui se mettent entre eux, qui ont des moyens. Mmh. Et ça, c'est le gros point. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des gens qui aient vraiment des gens qui n'aient pas du tout de moyens et qu'on va valoriser. Enfin, qu'on va valoriser. C'est eux qui vont se valoriser eux-mêmes, mais on va leur donner les moyens de le faire. Mmh. Alors après, il faut bien s'entendre sur la définition des co-villages. Il y a aussi des gens qui sont là, qui sont plus en mode woofing, qui n'ont pas de moyens, mais on retrouve souvent les mêmes catégories de personnes. Sans que ce soit péjoratif, une nouvelle fois. Et nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans le sens où nous, on veut faire société autrement. Comme je le répète, on se met en altitude, on prend une photo de la France, on fige et puis on regarde qui y a. Moi, je n'ai pas vu, par exemple, trop de personnes des quartiers défavorisés dans les écolieux. Alors, après, je ne les connais pas tous, hein, soyons honnêtes. Je n'ai pas toujours vu des personnes handicapées, je n'ai pas toujours vu des... Voilà.
Donc... Ça, c'est par exemple un point important. Ça fait deux fois qu'on rencontre une personne, enfin des personnes qui sont porteuses de handicap. Et les deux nous ont fait ce retour-là parce que c'est des personnes qui souhaiteraient pouvoir vivre... Alors justement, elle ne cherchait pas des communautés à chaque fois, mais elle cherchait des endroits, en tout cas, où le collectif était important, avait une place importante. Et notamment, je pense à un couple que j'ai rencontré cet été. Elle est en fauteuil roulant et lui est aveugle. Et ils se sont renseignés auprès de différents éco-villages. Et quand on leur a demandé un petit peu de donner des informations sur eux, de se décrire, on leur a répondu qu'en gros, ils ne pouvaient pas produire. Ils ne pouvaient pas produire de travail physique et donc ils ne pouvaient pas être intégrés au projet. Et ça, encore une fois, ce n'est pas l'idée de juger ce que les autres font. En revanche, nous, ça nous tient vraiment à cœur de nous dire... en l'occurrence, ce couple-là, ce sont deux artistes. Donc, effectivement, ils pourront pas produire de l'alimentation. Par contre, il y a plein de choses qu'ils vont pouvoir venir faire dans Existence B. De la même manière, on avait rencontré Vanina, qui a une, Mince, j'ai oublié le nom de sa maladie. Une maladie.
Une spondyarthrite.
Non, non, une maladie dégénérescente, mais qui, pareil, avait exactement le même parcours. Donc, elle ne trouvait pas de lieu dans lequel elle pouvait venir s'installer. Et en l'occurrence, voilà, c'est une femme qui a énormément à transmettre. Donc, en termes de, typiquement, de conférences ou d'animation d'ateliers, c'est quelqu'un qui va pouvoir transmettre beaucoup. Mais physiquement, elle ne peut pas participer, elle ne peut pas faire des travaux qui seraient pénibles physiquement. Et là, pour nous, c'est super important. C'est un exemple, mais c'est un exemple.
Parkinson, non, c'est pas
ça. Oui, la maladie de Parkinson, voilà. Et ça, c'est un exemple assez parlant pour nous de se dire que les retours qu'ils nous ont fait à chaque fois, c'est qu'ils trouvaient que c'était un projet effectivement inclusif. Et ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir trouver, que chacun puisse trouver sa place dans le projet, tout comme on souhaiterait que chacun puisse trouver sa place dans une société.
Un pourcentage qui a été défini de pourcentage de personnes, on va dire, à même à pouvoir travailler et faire des efforts.
On avait commencé à regarder sur les... Quand c'est l'INSEE.
Oui, les chiffres INSEE, mais c'est pas...
C'était pas totalement satisfaisant, mais on a fait un premier travail pour voir un petit peu juste, toi, en regardant juste des chiffres, un petit peu ce que ça donnait. Mais là, j'avoue que j'ai plus du tout les chiffres en tête.
Oui, on pourra vous les retransmettre, mais même les chiffres INSEE sont faussés. Alors, il ne s'agit pas de remettre en question le travail de l'INSEE, c'est justement quelqu'un qui travaille dans les statistiques qui nous a expliqué pourquoi. Parce que quand on vous fait un sondage INSEE, bah, qui peut vous répondre quand vous appelez? Et des fois, c'est plus des gens qui sont à la maison, qui n'ont pas vraiment de travail, et c'est difficile d'avoir le cadre sup qui est sur activité qui n'a pas envie de répondre à l'INSEE. Ouais, donc, alors, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'assistance au niveau social dans notre société. Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose en existence B? Bah, peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de RSA particulièrement, il n'y a pas d'assistance sociale, économique. Dans l'existence B comme on peut en avoir dans l'existence A, puisque notre principe est beaucoup plus d'être actif et inclusif. Je vais encore reparler des anges gardiens, mais c'est vraiment ce qu'ils ont su. Faire, c'est de redynamiser le territoire. Et on s'inscrit beaucoup plus là-dedans, à l'existence B, au niveau dans ce qui se passe exactement au niveau sociétal en France. En France, on a un système social, on a tout un tas d'avantages, entre guillemets, qu'on soit actif ou non. Nous, on n'est pas sur ce même process. Donc, ça va forcément impacter la sociologie représentative d'existence B.
Il y a Brassens qui demande les profils types des élus avec lesquels vous entrez en contact. Et il souligne en disant beaucoup d'enthousiasme de façade. En interrogation.
Je serais incapable de donner un profil type à part que c'est des petites communes rurales.
Par contre, il a bien raison, Brassens.
Oui, sur l'enthousiasme de façade. Ça, c'est un truc auquel on s'est un peu confronté. Alors moi, pour le coup, je connaissais pas du tout le milieu politique, mais ouais, effectivement, on a eu quelques déceptions où vraiment des super rendez-vous, on enchaîne des super rendez-vous, et puis à la fin, tout d'un coup, c'est bloqué, on ne comprend pas pourquoi. Il y a une personne de l'équipe, tout d'un coup, qui décide qu'elle trouve que c'est nul et qu'elle n'aime pas nos têtes, hein, grosso modo.
Oui,
et...
c'est vraiment ça, quoi. Il y a des moments où on se demande, mais qu'est-ce qui leur prend, quoi, de faire un volte-face comme ça.
Donc ça, c'est beaucoup mais de c'est, temps c'est investi, le... un peu pour rien, c'est jamais pour rien. Ouais. On apprend à chaque fois... On apprend à chaque fois beaucoup.
Parce que, alors moi, je n'ai pas perdu ma personnalité. Et au bout d'un moment, l'existence B, moi, je considère qu'au regard de tous les risques encourus pour notre société, pour nos vies à nous, c'est un état de nécessité de le faire. Enfin, c'est comme ça que je le considère. Article 122.7 du Code pénal. Un état de nécessité qu'ils arrêtent de se foutre de l'anticipation, les élus. Donc, au bout d'un moment, bon, on est gentil, on est enthousiaste, mais on est aussi ferme. On va dire, écoutez, la gouvernance pour les PCAET, vous n'êtes pas foutu de la faire. Pour tout un tas de trucs qui sont vos obligations, vous n'êtes pas capable de le faire. Et même sur l'anticipation des crises systémiques qu'on est en train d'encourir, là, avec des pénuries sur plein de secteurs, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc maintenant, il va falloir quand même que vous sachiez répondre. Donc il y a l'enthousiasme de façade qui est un peu combattu, alors, plus par moi, mais, mais Marjolaine n'est pas non plus... n'est pas non plus en retard là-dessus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc merci Brassens. C'est vrai que ça se passe souvent aussi. On a des gens, ouais, c'est génial, on vous accompagne jusqu'à la porte. Quoi. Merci. Une poignée de main dans le dossier, on s'en fout, nous, on reviendra.
Il y a Xadas qui vous demande ce que vous pensez. Donc là, c'est plus un avis personnel qui est demandé. Ce que vous pensez des cités jardins. Et il vous demande est-ce que vous êtes inspiré de ces modèles. Alors, entre parenthèses, phalanstère. Familistère. Ouais. Je ne connais pas ces termes. Je ne sais pas si ça vous parle.
Alors ouais, je trouve ça absolument génial. Alors, je suis originaire d'un petit village à côté de Saint-Quentin et Guise, c'était vraiment à côté. Donc c'est là où il y avait le Familistère de Guise. Bon, après, ce n'était pas parfait, mais rien n'est parfait de toute façon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et sur un autre plan, Montfermeil, j'aimerais en parler une minute. Montfermeil en 2005, la cité des bosquets flambée. La cité des bosquets flambée parce que bah, y avait les émeutes de banlieue, puis un mec que je connais bien qui disait qu'il fallait carcériser les gens des banlieues. Et qui, et en fin de compte, tout ça, ça a fait des scissions dans notre société. Qu'est-ce qui s'est passé à Montfermeil donc de 2005 à 2020 justement des cités-jardins. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais en tout cas, pour que Montfermeil s'apaise, pour que Montfermeil devienne un endroit agréable, pour que les Montfermeillois veuillent habiter dans cette fameuse cité des bosquets qui flambait en 2005, la municipalité de Montfermeil s'est mise à ouvrir la médiathèque pour faire du troc de graines. Et du troc de graines, ils ont ouvert le jardin de la médiathèque pour faire un terrain en permaculture. A tellement bien marché, les gens se sont tellement échangés les graines, alors qu'ils ne se parlaient même pas le même langage, il y avait tellement de communautés différentes qui se parlaient des langages différents, et là, autour du troc de graines, qui plantait ses graines dans le jardin de la médiathèque, est né un intérêt pour l'urbanisme, un intérêt pour le vivre ensemble, un intérêt pour qu'est-ce qu'on va faire ensemble de Montfermeil. Eh ben, donc tout a démarré de la médiathèque, et puis bah, quand il a fallu raser cette tour en béton qui était la cité des bosquets, insalubre, ainsi de suite, ce sont les citoyens qui ont décidé de comment allait être la cité des bosquets, et qu'est-ce qu'il y a, et j'en termine là-dessus, au milieu de la cité des bosquets, bah, un jardin qui est cultivé par les habitants. Donc moi je pense que pour justement être pragmatique et amener de la magie à notre société, il n'y a rien de tel que mettre les mains dans la terre. Et le côté familistère, bah, c'est intéressant parce que justement, il y a un rapport au travail, au loisir, à la proximité qui est à redévoiler, à réétudier et à réoptimiser au regard des règles de société actuelles. Voilà.
Très bien. Alors, par rapport au terme cité-jardin, je viens de regarder. Donc, c'est un concept théorisé par l'urbaniste britannique. Ebenezer Howard. Donc, je ne sais pas si on parlait des mêmes cités de la cité dont que tu venais d'évoquer, mais c'était intéressant d'écouter ta réponse.
Ouais, non, Marjolaine. Le familistère de Guise, c'est ça?
Oui, c'est les ouvriers vivaient directement sur place. Bon, ils avaient accès, donc ils avaient un logement, ils avaient accès au théâtre, ils avaient accès à tout un tas de choses. Les enfants étaient gardés, mais bon, donc c'était pour augmenter aussi la productivité.
L'intention,
voilà. C'était... Nous, dégager du CO2, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est plutôt en capter.
Ça peut être source d'inspiration, voilà, certains sujets, mais là, on n'a pas la même intention, clairement.
Voilà, on n'a pas la même intention.
Très bien. Les Amac, d'un point de vue pratique, où en êtes-vous de l'organisation? Quelles sont les conditions de participation à votre projet? Quand commencerait-il et combien de temps souhaiteriez-vous que ça dure?
question qui était déjà là lors de la première intervention.
Ah, ok. Alors, il faudrait presque qu'on passe à la suite pour que vous compreniez un petit peu où on en est.
Bah, alors, bah, dans ce cas-là, on garde cette question pour après. Oui. C'est une deuxième partie de présentation.
C'est une phase de construction, la suite. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas rester 10 ans à dire « Ouais, il va se passer existence B. » Quoi. On a déjà un an dans la vue. Hein. et là, ce qu'on veut, c'est vous répondre précisément. Et n'hésitez pas à revenir avec la question si on n'avait pas répondu. Comment on va faire ? On vous l'explique maintenant.
Déjà,
alors, il y a encore quelques petites questions avant de démarrer le... Sauf si vous voulez passer maintenant, par rapport au temps, je vous laisse...
Vas-y.
Donc, Ménilienne qui demande pourquoi des financements privés seraient-ils décorrélés des habitants. Il me semble que des entrepreneurs type Niel ont financé des écolieux, mais du coup contrôlent le système.
Exactement.
Bah ouais, c'est effectivement arriver à choisir aussi d'où viennent des fonds. Ça rejoint aussi un petit peu la suite de la présentation. Pourquoi on a décidé, pourquoi on a décidé de redécouper le projet. Mais c'est un vrai sujet, c'est une vraie difficulté, ces histoires de financement privé ou public d'ailleurs. Par qui on est financé et en même temps, nous on n'a pas de fortune personnelle, donc on peut pas acheter un terrain nous. Donc, il faut bien aujourd'hui, pour avoir un terrain et commencer à construire des choses, il faut de l'argent. Donc, d'où il vient, comment on arrive à démarrer peut-être plus petit, c'est vraiment la démarche. C'est vraiment la démarche.
Il y a du sponsoring, c'est-à-dire des personnes qui simplement pour apparaître dans le cadre du projet Existence B.
On souhaite le mécénat. Ouais. Le mécénat, ça de particulier que. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à sentir qu'il y a quand même des choses qui déconnent au niveau planétaire et se disent très bien, j'ai fait une fortune en polluant la Terre, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire un petit truc qu'on ne nous reprochera pas, enfin que les enfants ne reprocheront pas. Bon, donc nous on est plutôt sur le mécénat parce que le sponsoring c'est encore engageant. C'est-à-dire que si demain on a un truc comme une grosse entreprise qui fait du nucléaire qui nous finance, ça va être compliqué pour nous. Dire non, mais nous on est quand même indépendant. On a un stample qui est pas facile.
En tout cas, il faudrait qu'on puisse être sûr de garder le contrôle total sur ce qu'on veut faire. La difficulté, c'est que si on nous donne de l'argent et que tout d'un coup on le retire, arrête d'en donner, c'est quand même une manière de couper le projet, donc ça pose quand même beaucoup de...
J'ai une grande expérience dans les techniques d'ingénierie, de destruction d'entreprises. Tout à l'heure, j'ai parlé de Sébastien Culac de KGM. Il faut savoir qu'il avait avant une entreprise qui s'appelait LM. J'ai été sur le dossier en tant qu'enquêteur indépendant. Je peux vous dire qu'il faut faire très très attention de qui vous finance et pourquoi on vous finance. Parce que des fois, il y a des volontés de vous financer. Ah, vous êtes super content, vous démarrez. Mais c'est mieux pour vous, c'est pour mieux vous étouffer derrière. Alors moi, je n'oublie pas d'où je viens et mes compétences. Et vraiment, savoir qui va nous donner quoi, ça m'intéresse fortement.
On est vigilant.
Ouais.
Bien. Question de Brassens. Brassens, je ne sais pas si c'est un micro. Si vous avez un micro, n'hésitez pas quand c'est vos questions, si vous voulez les poser directement.
Les amis.
ouais. Alors la question de Brassens, c'est il vous demande si vous êtes en contact. Alors, attends, donc, du coup, je remonte chat livre blanc. Êtes-vous en contact avec l'association de Vert Terre Production Maraîchage sur sol vivant ?
Non.
Ok. Donc du coup, il n'y a plus beaucoup de questions. Quels sont vos axes prioritaires sur le projet ? Sachant qu'on ne peut pas tout mener de front. Aujourd'hui, quelles sont les priorités par rapport à l'état du
projet ? On va passer à la suite.
Très bien. Et alors ensuite, Gepetto, et après on vous laisse continuer. Avez-vous parlé de votre projet à Valérie Bugot pour qu'elle vous dise les possibilités d'évolution selon sa perception géopolitique du droit ?
Non, on n'a pas parlé à Valérie Bugot. J'étais en contact avec elle pendant un temps sur LinkedIn, et puis ça s'est estompé. Mais y a plein de choses à faire avec le droit. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de... voler dans notre société et au niveau du droit qui ne vont pas. Et le droit, c'est ce que les citoyens en font, d'accord ? Si tout le monde se fout du droit, ça part à volo. D'accord ? Si demain tout le monde veut la démocratie, vous allez voir que ça va décider. Là, les gens ne veulent pas spécialement la démocratie. Et c'est pas toujours un choix. C'est parce que la pression de conformité, la pression sociale, sociétale, la culture, ont fait que bah, on est des consommateurs de la créativité des autres en termes démocratiques. Donc il y en a qui décident et puis on met un bulletin dans l'urne. Bon. Ça, nous, ça ne peut pas exister sur un projet Existence B. On est obligé de décider. Parce que rien que pour participer à l'opération, il faut faire cette promesse. Alors, c'est cet engagement de contribuer à un héritage. Donc, on va forcément devenir un citoyen. Voilà. Donc, pour raccrocher à l'histoire du droit, oui, notre France a connu des périodes où le droit était sacrément sali. 80 ans en arrière, il y en a quelques-uns qui s'étaient attribués les pleins pouvoirs. Est-ce que le droit est mort suite à ça? Non. Les Français ont repris le sens du droit. Et moi, je pense que les Français peuvent aujourd'hui reprendre le sens du droit. Mais il faut arrêter de... Enfin, la fatalité. En tout cas, nous, c'est pas notre point de vue.
Très bien. On vous laisse continuer. Alors, Prali et Cap, j'ai noté vos questions. On les posera à la fin. On passe à la deuxième partie.
OK. Merci. Alors, donc là, on vous a présenté le gros projet d'innovation sociétale. Donc, ce qui s'est passé, on a déjà en partie un peu abordé le sujet, c'est qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que ce gros projet-là, il n'est pas toujours, il n'est pas forcément facilement compréhensible et appréhendable. Et c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'explications dans le détail. Il faut rentrer dans le détail de plein de sujets pour bien le comprendre. Et on s'est aussi rendu compte que probablement, c'était un peu un trop gros projet à amener comme ça d'un coup. Et donc, qu'on avait besoin plutôt de pouvoir s'implanter sur un territoire et justement acquérir la confiance de la population locale, des élus, pour pouvoir à terme commencer à faire des premières petites briques et puis à force à terme de monter progressivement le projet. Il s'est passé aussi une autre chose, c'est qu'on avait un rendez-vous avec un investisseur et on lui a présenté donc le gros projet Existence B. Et c'est un rendez-vous qui s'est plutôt mal passé, on peut dire ça comme ça. En gros, lui, sa réaction à la fin, c'était de nous dire que ce n'était pas un projet qui le faisait bander. C'est le mot qu'il a utilisé. Et au début, on n'était pas très bien en sortant de ce rendez-vous-là. Et puis finalement, ça a été intéressant parce qu'on s'est dit, lui, qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est un ancien banquier. Finalement, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Donc, il faut qu'on arrive à travailler sur un des axes sur lequel on n'avait vraiment quasiment pas travaillé jusqu'ici, voire
puis on
pas.
On n'avait pas envie.
C'était pas notre truc, c'était l'axe économique. Et c'est pour ça qu'on a resubdivisé le projet Existence B en un projet qu'on appelle le moyen projet d'entreprise. Et encore ensuite, un plus petit projet qui est un projet d'atelier de cuisine. Mais il faut vraiment, vraiment bien comprendre que tout ça, c'est cohérent. C'est vraiment juste comme des petites marches pour arriver au gros projet. Nous, on a toujours en tête ce gros projet. Mais on se rend compte, là, en présentant le projet d'entreprise, que quand on parle d'économie, ça parle à tout le monde. Mmh. Voilà, quand on parle d'une entreprise qui va créer des emplois sur le territoire, c'est plus facile à comprendre, à appréhender, on est moins peut-être sur de la philosophie, on est moins... c'est très concret et donc ça passe plus facilement. Et donc,
oui, alors je voudrais ajouter ça, c'est que tout ce que vous allez voir là, donc c'est la voie vers le gros projet et c'est de l'ingénierie. Alors bien sûr que ça peut paraître dissocié, mais qu'est-ce que vient faire un projet d'atelier de cuisine, une entreprise dans le projet pour amener au projet sociétal d'Existence B, on va tenter, et n'hésitez pas à poser des questions a posteriori, de vous expliquer l'ingénierie et la cohérence de tout ça. Voilà.
Donc on va commencer là par les petits projets, donc le petit projet d'atelier de cuisine. Il y a un fil rouge qu'on retrouve finalement dans l'intégralité là du projet, qu'il soit les gros, moyens ou petits. C'est qu'on travaille beaucoup sur la notion de convivialité dont on vous a parlé tout à l'heure, et notamment l'idée de faire passer la transition de société par le biais de l'assiette. L'idée, c'est d'être sur des moments sympas et que le ventre puisse parler au cerveau.
Alors,
ouais,
le ventre a a énormément de neurones qui parlent au cerveau. Et il est important de savoir comment notre assiette dessine un territoire. Ce qu'on met dans notre assiette dessine le territoire. Alors, il le dessine sous deux grands aspects. Il peut le construire ou le détruire. Il peut, quand on met un aliment dans son assiette, soit ça peut construire, effectivement, bah, ça peut reterritorialiser de l'alimentation, donc créer des emplois, éco-régénérer des systèmes, créer de la convivialité, ou, à l'inverse, on peut mettre quelque chose dans son assiette, parce qu'on... Et là, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de, par exemple, s'acheter du bio local parce qu'on n'a pas de budget, on n'a pas le moyen. Et on va mettre quelque chose dans son assiette qui, spirale négative, va en plus détruire les emplois locaux, détruire les écosystèmes parce que c'est des produits faits n'importe comment venus de loin, et détruire la convivialité, et puis donner, en fin de compte, des moyens à ceux qui captent toutes les richesses sur cette planète. Parce qu'il suffit de regarder à qui appartient le produit, puis on va taper sur Yahoo Finance, et puis on va retrouver toujours les mêmes guignols là, qui veulent, en fin de compte, le pouvoir absolu. Alors, ce qui est important, c'est que ça, à travers un moment convivial, sans toutes les explications que je viens de donner, on puisse le construire. Construire ce fameux territoire de transition de société.
Donc ça, c'est vraiment l'idée de départ, c'est de pouvoir travailler. Alors, vraiment, on redescend sacrément. Hein. En termes d'échelle, on est sur l'idée d'organiser des ateliers de cuisine, donc faire cuisiner ensemble des gens venus de tout milieu. Donc c'est là où on va retrouver progressivement finalement tout ce qui fait l'ADN du projet Existence B, vraiment dans l'objectif de tisser des liens, retisser des liens sociaux, refaire... se parler les gens, recréer des solidarités, juste les faire se rencontrer alors qu'ils viennent d'univers et de milieux différents. Mmh. Et à partir de là, commencer aussi à travailler sur le fait de lever les a priori. Lever les a priori des gens les uns contre les autres, des néo-ruraux qui arrivent et qu'on regarde d'un mauvais œil et qui regardent peut-être eux-mêmes d'un œil un peu hautain des gens...
les enfants du pays.
Les enfants du pays, ou qui arrivent avec des gros moyens, donc ça crée des déséquilibres. Donc voilà, comment on arrive à se rassembler, et puis en discutant, à se rendre compte qu'on n'est peut-être pas issu du même milieu, mais par contre, quand on cuisine ensemble, et quand on passe un bon moment ensemble, finalement, c'est sympa, et puis on se trouve peut-être même des points communs. Mmh. Avec les ateliers de cuisine, on vient aussi considérer les ressources. Les ressources, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être déjà tout ce qui est comme ressources de production, donc par exemple alimentaire dans le village même ou sur le territoire. Qu'est-ce qui pousse déjà ici, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, valoriser. Ça peut être aussi des ressources de particuliers, hein, pour tous les gens qui ont des potagers, des jardins ou qui ne cultivent pas aujourd'hui. Est-ce que finalement il n'y a pas un arbre qui produit des fruits qui tombent et qui pourrissent et qui ne sont pas utilisés. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à aller faire là aussi, hein. Une fois qu'on a tissé des liens, ça va être une petite mamie qui va avoir besoin qu'on lui tonde sa pelouse. Et puis, en échange, on va récolter les pommes. Et puis, je ne sais pas, faire des tartes aux pommes. Et puis, ça crée du lien entre les personnes. À partir de là, en fait, tout l'objectif, c'est d'arriver... entre autres, c'est d'arriver à comment on crée les conditions des marchés locaux. Comment on fait en sorte que progressivement l'état d'esprit change sur la manière de manger, de cuisiner, réapprendre à cuisiner des légumes par exemple. Il y a des gens qui cuisinent jamais de légumes. Ça progressivement c'est une manière aussi de se dire donc je vais maintenant que je sais cuisiner et que j'apprécie de manger des légumes parce que bien cuisiner c'est bon. Et comment j'arrive à amener le fait que je vais avoir envie d'aller me fournir chez mes producteurs locaux que j'aurais peut-être d'ailleurs rencontré pendant ces ateliers de cuisine.
Voilà. Alors, il y a, je vous invite à regarder ce que font François Rouillet et Sabine Becker de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Il y a plein de méthodologies justement qui amènent à ce genre de choses, du lien entre les gens. Et je voulais revenir sur considérer les ressources, parce que l'exemple qu'a donné Marjolaine est un exemple concret. qu'on a découvert, c'est une nouvelle fois avec cette association du Nord, où il y avait une petite mamie qui ne voyait plus personne, qui avait un cognassier dont les coins tombaient au sol. Elle en prenait une partie, elle faisait ses confitures, mais une fois qu'elle a fait sa confiture pour elle toute seule, elle en donne deux, trois. Bon. Voilà, donc il y avait de la ressource qui était en train de pourrir. À côté de ça, il y a des gens qui ont des difficultés à avoir des confitures, parce qu'ils ne peuvent pas se les offrir. Donc vous voyez qu'il y a des synergies. Et ça, des systèmes d'ingénierie sociale comme la MAN ou d'autres systèmes, hein. Moi là j'en cite un, mais il y a plein d'associations qui font des choses formidables aujourd'hui sur nos territoires. Vous retirez ces associations, la France s'effondre. Ça ne marche plus. Il y a plein de gens, plein d'entreprises qui bénéficient de ce travail invisible, mais qui fait la cohésion sociétale. L'intérêt avec les ateliers de cuisine, c'est de valoriser tout ce travail qui fait du vivre ensemble, qui fait que les néo-ruraux et les ruraux commencent à comprendre qu'il y a des interactions à avoir ensemble, comprendre que acheter des maisons secondaires sur un territoire, ça fait pas ça crée pas de l'économie. Des maisons secondaires, c'est inhabité. Et puis ça casse parfois justement les rêves de l'enfant du pays qui, lui, avec son petit salaire, s'imaginait pouvoir acheter la maison du coin. Ben non, la maison du coin qui valait 20 000 euros, elle est passée à 60 000 euros parce qu'un néo-ruraux qui a peur du confinement, un néo-rural qui a peur du confinement vient de l'acheter. Bref, ça crée des déséquilibres, tout ça. L'atelier de cuisine, cuisiner ensemble, se mettre autour d'une table, une table ronde ou pas ronde d'ailleurs, mais en tout cas, se mettre autour d'une table, c'est parler du territoire. Et si on parle du territoire, on commence à faciliter la gouvernance. Alors c'est pour ça qu'on a mis Marjolaine a mis les petits pas pour aller vers les feuilles de route, SRADEP, PAT, PCAET. Toutes ces obligations qui risquent de partir, enfin ça risque de mettre 20 ans à se faire alors qu'on a des urgences écologiques. Donc la gouvernance se fait depuis l'assiette et la redéfinition du territoire se fait depuis l'assiette. Depuis l'assiette, ça va dans le ventre. Les neurones du ventre disent mais en plus c'est bon. Et du coup, la tête se dit bon, c'est bon, il est temps de changer. Vous voyez, c'est en ça où c'est de l'ingénierie. Quoi qu'il en soit, la cuisine à existence B, petit projet ou grand projet, ça restera quand même le premier vecteur de transformation sociétale, l'alimentation.
Sur ce petit projet-là, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, donc les ateliers de cuisine, on a eu plusieurs rendez-vous avec les mairies, avec des mairies. On s'est, c'est le dernier point, mais on s'est formé avec un permaculteur qui s'appelle Fabien Tournant. Alors, pas à la permaculture, mais plutôt à
L'ingénierie, une nouvelle fois.
l'animation de. Comment on arrive à utiliser, enfin utiliser, c'est pas un joli mot, comment on arrive à faire de l'ingénierie à partir d'ateliers. Et justement, tout ce qu'on arrive à diffuser à partir d'un atelier, et notamment, lui, il est très axé là sur les enfants. Comment on arrive à venir plutôt sensibiliser les enfants qui sont vraiment un très bon vecteur ensuite, parce que les enfants parlent à leurs parents. Et puis surtout, qu'on a planté des petites graines qui seront utiles quand même aussi pour la suite. Donc on est en contact aujourd'hui avec un centre de loisirs et puis on a aussi prise de contact avec un grand groupe qui serait intéressé pour nous aider pour le coup à communiquer sur les ateliers de cuisine à destination des enfants dans une newsletter qui part notamment à énormément d'enseignants. Donc voilà, on est quand même bien avancé sur le sujet.
Alors, important, Fabien Tournant, hein, son site, je vous invite à aller le regarder. C'est pareil, c'est un des contacts de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Le site de Fabien Tournant, c'est Régénération végétale. Là, vous avez un grand monsieur. C'est comme Céline Basset, c'est des gens qui sont exceptionnels, qui font ça avec le cœur. C'est quand même un type, Fabien Tournant, qui est capable de créer de la ressource en plein désert. Et de la ressource, créer une économie avec les enfants. Il faut savoir que les enfants, enfin, je ne vous apprends rien, sont les futurs consommateurs de demain. S'ils sont conscientisés, s'ils ont mis les mains dans la terre, s'ils ont vu la magie du vivant s'opérer, forcément, ils peuvent en témoigner aux parents. Plus les enfants connaîtront les noms des légumes et moins le nom des marques des fast-foods, plus on réformera la société. C'est ça qui est intéressant avec Fabien Tournant. Des gens exceptionnels, on en connaît un paquet maintenant avec ce projet Existence B. Il y en a un autre, j'en parle très vite fait, c'est Jean-Paul Augereau. Jean-Paul Augereau, lui, il donne à boire partout sur la planète avec sa fontaine Low Tech, qui filtre 1000 litres d'eau à l'heure. Jean-Paul Augereau fait partie du projet Existence B, et c'est quelqu'un qui, depuis l'eau potabilisée, pareil, crée avec les écoles de l'ingénierie sociale et territoriale en Afrique et partout où les gens n'ont pas toujours accès à des pompes électriques qui vont pomper l'eau. Donc voilà.
Pomper l'eau.
Existence B, les ateliers de cuisine itinérants. Alors, vous avez vu, il y a... Ah ben, ça... Je ne sais pas si ça vous apparaît, mais... Voilà, ça y est. Il y a un petit fourgon, là, j'en parlais tout à l'heure. Anthos Air Power. Pourquoi inventer des nouveaux véhicules électriques, machin, qui vont... alors qu'on peut réhabiliter des anciens véhicules et faire tourner ça à l'air comprimé? Bon, ben, c'est la question qu'on se pose et qu'on a envie de fertiliser les esprits, entre guillemets, à travers des ateliers de cuisine itinérants. On vous a expliqué avant pourquoi l'assiette était importante et ce qu'on met, enfin, le contenu de l'assiette était important. Comment on crée, en fin de compte, les conditions sociales et sociétales pour que les gens trouvent que c'est bon de restaurer des écosystèmes. Ah ben, c'est bon de savoir que si d'un seul coup on a une méga pénurie de pétrole, que tout le monde commence à se battre pour le pétrole, mais on ne manque pas d'air en France. Au contraire, il y en a à dépolluer. Donc c'est bien de faire coup double. Et Existence B entend bien inspirer pas mal de personnes qui veulent faire des tours de France, de conscientisation. Je pense à Coco Pelli, là, qui sur Mimosa est en train de lancer une opération pour aller parler des graines anciennes. Eh ben voilà, c'est autant le faire en manquant pas d'air, ce système.
Le fait que d'être itinérant, c'est intéressant parce que sa licence B, lui, sera fixe à un endroit. Donner, sur partager et transmettre, c'est aussi une manière pour nous d'aller à la rencontre de tous les gens qu'on rencontre aujourd'hui qui viennent nourrir le projet, donc de continuer à élaborer la vision. Il y a un intérêt qui est vraiment petit, on va dire, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'ici. C'est les ateliers de cuisine, c'est aussi une première manière quand même de faire rentrer de l'argent dans le projet Existence B, en n'attendant pas des financements ni publics ni privés, mais en nous, en proposant finalement quelque chose et de gagner un petit peu d'argent à partir de ces ateliers qu'on aura élaborés.
Oui, parce que c'est aujourd'hui, on propose une ingénierie territoriale qui est presque un état de nécessité, je le rappelle. Hein. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vos supermarchés dont la surpuissance est en train d'être mise en question par des Amazon et ainsi de suite qui ont des plans de destruction des concurrents à 5 ans en faisant quasiment de la vente à perte. Bah, si vous avez pu, donc le peu qui vous reste, là, vos supérettes et vos supermarchés, vous êtes vraiment très très mal. Et aujourd'hui, les maires et les élus et les préfets qui ont la charge d'anticiper ce genre de grosses crises, on ne parle pas des petites crises, bah, ils ne savent pas toujours faire. Donc, nous, l'idée, c'est de valoriser cette ingénierie territoriale. On a vraiment pensé, moi, c'était mon métier de penser à la sécurité publique. Je me suis spécialisé dans la sécurité systémique qui inclut sécurité publique et sécurité civile. Ça va servir à beaucoup de monde. Et puis, c'est jovial. Il y en a marre des trucs qui font peur. Donc, autant qu'on passe des bons moments à redéfinir nos territoires et à vite se mettre en sécurité face aux problèmes systémiques qui nous arrivent.
Parlez-vous. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on...
Ouais, un petit flot de questions.
Vous pouvez continuer à dérouler là. Il y a quelques questions, mais on peut continuer à dérouler.
On va parler de verre maintenant, du verre et du chanvre particulièrement.
Alors, donc là, on est sur le moyen projet. On essaye de...
En parallèle des ateliers de cuisine. Il nous est important de restaurer un savoir ancestral, c'est que la France, pendant longtemps, a été une plante stratégique qui s'est fait déboulonner par plusieurs axes. On va parler du plus croustillant, c'est les léobies, du nylon, du pétrole, bref, qui l'ont déboulonné en faisant croire que c'était juste une plante à fumer. Et puis après, il y a le côté aussi, le côté économique. Le chanvre, ce n'est pas aussi polyvalent que le pétrole. Ça demande de prendre soin de la nature. Ça ne correspond pas au modèle économique actuel où c'est les flux tendus, la rentabilité. Bon, nous, pour régénérer des écosystèmes, prendre le temps de créer un héritage pérenne pour nos enfants, il faut justement se reconnecter à la nature. C'est pour ça qu'à plusieurs titres, à titre psychologique, à titre économique, à titre éco-régénératif et pour citer la résilience, même pour la résilience, cette plante est extrêmement stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle est rentable. Elle est rentable si on valorise les graines. La graine, on en fait de la nourriture, on en fait de l'huile, on en fait de la farine. On peut intégrer ces farines dans des préparations de cuisine. Mais surtout, elle est éco-régénératrice. Pourquoi? Parce que le chanvre capte du CO2, régénère des sols. Donc ça permet la transition des agriculteurs. Ça augmente les rendements d'environ 30% de pommes de terre quand on s'en sert, quand on plante pivot en rotation de culture. Ça augmente environ de 10 à 15% la production de blé. Mais surtout, je le répète, ça dépollue les sols. Ça recrée des galeries dans les sols, donc ça décompacte les sols, c'est bien pour les inondations, pour éviter les inondations, les glissements d'eau sur les terres compactées. Ça capte du CO2 et on en fait tellement de choses. Des fringues, de l'habitation, des bioplastiques, de l'hydrogène, des biocarburants, on en fait de la nourriture, je l'ai déjà dit, et bref, il y a encore tout un tas de trucs à inventer avec. C'est zéro déchet et c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour trois axes de résilience aussi. Résilience alimentaire, je l'ai dit. Résilience énergétique. Résilience santé. Vous regardez à peu près tout ce qu'on peut soigner avec du cannabis thérapeutique. Et là, c'est bien cadré. Il faut que ce soit... Donc, on parle bien d'une plante spécifique pour faire du médical. On a vraiment, avec cette plante, tout intérêt à réhabiliter le côté stratégique de cette plante dans la culture intellectuelle et les cultures agricoles françaises. Il faut désenfumer les a priori. Et nous, alors moi, ça tombe bien, en tant qu'ancien flic, parler du chanvre, forcément, ça questionne. Mais moi, on ne parle pas du truc du pétard. On ne va pas fumer, c'est notre résilience. Donc, l'entreprise de chanvre, c'est pourquoi? C'est justement pour faire comprendre, donc à ceux qui se posent des questions, comment on va pouvoir économiquement intégrer cette plante stratégique sur tous les territoires, en tout cas beaucoup de territoires, pour permettre une transition.
Peut-être juste pour préciser l'objectif, enfin pas l'objectif, mais la mission de cette entreprise-là, c'est une entreprise sociale et solidaire, et ça va être une entreprise de première transformation du chanvre. Donc l'idée, c'est de faire du chanvre alimentaire, notamment avec les graines, pour les humains et pour les animaux. Alexandre a parlé du cannabis thérapeutique, mais c'est pas, voilà, ça c'était plus pour donner une vision de la plante, mais nous on va vraiment se focaliser sur la partie alimentaire de la plante. Sur la partie sociale et solidaire, tu veux revenir dessus?
Oui, sociale et solidaire, puisque nous on n'est pas des gros capitalistes qui voulons nous en mettre plein les poches. On veut absolument qu'Existence B puisse être l'héritage surtout intellectuel qu'on va pouvoir laisser à ceux qu'on aime. Et donc l'idée, c'est que ce projet, le gros projet, puisse vivre. Plus on va réussir à convaincre qu'on n'est pas des idéalistes et qu'on va convaincre les plus sceptiques par l'économie, plus à un moment on va déclencher ce petit bout là qui nous manque quand même, c'est peut-être même un gros bout, pour qu'on puisse vraiment s'installer sur un territoire. Et avec des personnes qui accepteront notre vision. Voilà. Mais avant ça, tant qu'on n'a pas fait la preuve que nous sommes cohérents économiquement et qu'on ne raconte pas juste des carabistouilles avec le chanvre, il faut qu'on prouve. Il faut qu'on prouve à qui essentiellement? Il faut qu'on prouve à nos élus, à nos agriculteurs, que le chanvre, c'est très spécifique quand même. Hein, c'est pas une plante non plus miraculeuse. Ça demande de la technicité, mais les agriculteurs qui voudront ne plus se faire insulter d'être des criminels parce qu'ils font ce qu'on leur a demandé de faire il y a de ça des décennies, eux, il y a une voie de résilience. Alors, pour qu'ils acceptent cette voie de résilience, il faut qu'économiquement, ça soit prouvé. Les élus, pareil. Si d'un seul coup, il y a des élus qui commencent à se dire ah « ouais, bah oui, le chanvre, ça peut être intéressant, on peut en faire plein de trucs, même nos groupes électrogènes de secours, on pourrait peut-être les faire tourner avec du chanvre, gna gna gna. » Bon, bref, faire manger des pâtes au chanvre dans les cantines scolaires, c'est peut-être intéressant, pour les PCAET, ainsi de suite. Bref, mais pour ça, il faut prouver des chiffres. Alors, c'est pour ça qu'il y a un troisième interlocuteur que vous avez au centre. C'est la chaire de comptabilité écologique. C'est important. Pourquoi ? Parce que dans notre approche économique, on intègre l'écologie. Aujourd'hui, notre modèle économique de société, c'est on prend des ressources gratuites, on les transforme, on pollue comme des enfoirés, et puis on revend ça, et puis à la rigueur, on fait un peu de greenwashing dessus pour dire que c'est vrai. Nous, on a une autre approche. On va créer de la ressource, enfin on va prendre effectivement du gratuit, c'est-à-dire que on prend des graines que la nature a faites, on les met dans le sol, ce sol nous permet gratuitement d'avoir du chanvre, et ce chanvre, on va le valoriser, d'accord ? Mais ce chanvre, on va intégrer dans la comptabilité que lui, il a capté du CO2. Donc on a commencé, nous, à dépolluer la planète. Quand les autres qui font du greenwashing, eux, ils continuent à faire de la communication, mais ils continuent à envoyer du CO2. Donc, c'est ça qu'il est important maintenant de valoriser. Quand je parlais un peu plus tôt dans l'intervention de la valorisation des invisibles, c'est ça qu'on veut faire avec la chaire de comptabilité. Puis, on a deux personnes vraiment clés.
Vas-y. Juste sur la partie chaire de comptabilité, donc d'AgroParisTech. On va pas rentrer trop dans le détail, mais effectivement, c'est sur un principe de soutenabilité forte, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'idée de faire rentrer le vivant dans le passif du bilan comptable. Donc le fait que, de partir du principe que dans tous les cas, quand on exploite le vivant, d'une certaine manière, on le dégrade, en tout cas on l'utilise. Et donc c'est aussi vraiment une nouvelle conception de l'économie. Parce que c'est pas du tout autant dans une recherche de profitabilité. En tout cas, c'est pas une profitabilité et c'est pas l'idée de se dire que l'argent peut tout acheter et tout remplacer. Pour vous donner un exemple vraiment concret, aujourd'hui, dans les principes de soutenabilité faible que mettent en place les grandes entreprises qui font du greenwashing, elles vont se dire que si dans leur mode de production, bah, elles viennent utiliser des pesticides et donc détruire des populations d'abeilles ou de pollinisateurs, bah c'est pas grave, on va financer la création de drones qui vont venir faire ce travail-là de polliniser les fleurs. Et donc bah ça, c'est un principe de soutenabilité faible, c'est-à-dire qu'à terme, c'est pas un choix qui est soutenable. Le principe de soutenabilité fort, c'est de se dire non, c'est pas possible en fait que le travail qu'on fait, la production qu'on fait, va venir tuer, décimer des populations d'abeilles. Et donc c'est vraiment, pour vous dire, voilà, c'est vraiment une nouvelle conception de l'économie. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir l'intégrer au tout début du projet. Donc pour être tout à fait transparent, le partenariat, il n'est pas encore signé, mais on est vraiment en discussion avec eux. On veut vraiment que l'entreprise... c'est pas une entreprise pour faire du profit. Le profit, c'est juste un moyen ensuite, nous, pour décliner notre projet. Et donc, c'était très important pour nous qu'on puisse, dès le démarrage de l'entreprise, le faire sous cette nouvelle forme-là, d'une manière de faire une entreprise.
Voilà.
Et puis, effectivement, on vient aussi s'appuyer sur Aurélien Delecroix, donc, qui est président du syndicat du chanvre, syndicat professionnel du chanvre, et qui est aussi un entrepreneur, donc il a sa marque Hello Joya de chanvre alimentaire, justement.
Donc il a démontré économiquement qu'on pouvait, être rentable. Ça, c'est pour parler aux archaïques, hein, si je puis dire. C'est-à-dire, ben non, ben maintenant, vous savez, on vous a parlé de cet ex-banquier qui ne bandait pas avec notre projet, ben maintenant il bande. Excusez-moi d'être vulgaire, mais... Au moins, comme on veut faire société avec tout le monde, bon, ben, on est obligé de parler à tout le monde. Là, maintenant, on n'est plus sur la philosophie. On leur prouve qu'économiquement, eux, dans les années à venir, ces archaïques qui mettent du green sur tout, au gré où les réglementations sera de plus en plus restrictives sur la pollution, leur modèle risque de s'effondrer. Voilà. Et puis Philippe Desbrosses, c'est quand même le cofondateur du label Agriculture Bio. Et alors si on met très vachement en avant le côté chanvre, on va mettre aussi en avant le lupin, les potimarrons, parce que c'est des plantes, des végétaux qui sont aussi éco-régénérateurs. Mais là, on ne va pas vous embrouiller avec tout ce qu'on met derrière.
Je me suis trompée de... Bon, la première ligne, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est les actions. Donc, tout ce qu'on fait là aujourd'hui quand on travaille sur le projet d'entreprise, on a effectivement surtout en l'occurrence un rendez-vous avec une mairie, parce que le soutien d'Aurélien, on vient de vous le dire. En réalité, on a surtout obtenu la mise à disposition d'un lieu, donc une grange et une maison dans le Loir-et-Cher pour pouvoir créer l'entreprise. Pour pouvoir avoir des locaux. Après, il y a un petit temps, il y a un petit délai de mise en état de réhabilitation de ces lieux-là. On a aussi obtenu la mise à disposition de 3 hectares pour la culture du chanvre, donc un agriculteur qui serait partant, qui a déjà fait du chanvre et qui serait partant pour nous cultiver, en fait, pour nous, ces 3 hectares. Le reste, on en a un petit peu parlé. Puis on travaille aussi sur les recettes, parce que le chanvre, c'est un goût particulier. Alors les graines de chanvre, c'est bon, je vous invite à en goûter si vous en trouvez dans les magasins, dans les magasins bio. Je crois qu'il y en a aussi chez Monoprix. C'est un petit goût de noisette, c'est bon. Les huiles et les farines, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un goût, il y a une amertume et il y a un goût herbacé qui est un petit peu spécial. Donc on travaille sur les recettes et puis on va affiner encore notre travail avec un grand chef qui est partant pour nous aider aussi sur les projets.
Alors, peut-être que ça, il faut repréciser, on était sur des ateliers cuisine, on vous parle de chanvre et de recettes. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de faire au plus proche des intérêts des citoyens, enfin, qu'ils puissent se représenter les citoyens facilement la transformation du territoire. Transformation du territoire qui est cet ADN d'Existence B, hein, du gros projet. Donc, quand l'assiette elle-même est produite avec du bioplastique de chanvre, on a déjà commencé à transformer la société. Quand dedans, on met dans cette assiette, on met un produit, une alimentation qui contient du chanvre, on a encore transformé le territoire. Et c'est pour ça que... Tu ne veux pas remettre là. Voilà. Quand on est dans nos besoins pour le petit projet, on parle beaucoup de recettes parce que c'est vraiment essentiel que les gens comprennent simplement comment on va le transformer, ce territoire. Et notamment avec... tout ce dont on vient vous parler, la démonstration économique, le chanvre, ce qu'on met dans l'assiette.
Là, c'est cette slide-là, c'est parce qu'on nous pose régulièrement la question de quoi vous avez besoin. Là, vous en êtes où à cette étape-là? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, petit projet, c'est les ateliers de cuisine.
Oui, les ateliers de cuisine. Aujourd'hui, on cherche un fourgon. C'est là où les financements privés peuvent quand même être intéressants. Un fourgon qu'on va équiper de matériel de cuisine, donc transportable, puisque l'idée, c'est d'être itinérant. Éventuellement, un camping-car, là, c'est vraiment des questions de logistique pure. Hein. Ouais. Après, on est vraiment très preneur des contacts que vous pouvez avoir en mairie ou dans les écoles ou les centres de loisirs, sachant qu'on s'appuie sur l'obtention d'un label E3D. Donc les écoles et les centres de loisirs sont très intéressés pour obtenir ce label puisque c'est une directive gouvernementale de l'obtenir progressivement.
Oui, les E3D, ça veut dire que l'école prend bien en considération l'écologie et qu'elle donne des cours de préservation de la planète aux enfants. Et le dernier truc, c'est on a besoin des cahiers de recettes de vos grands-mères. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle fois, c'est une manière simple de redéfinir un territoire. Alors, on aimerait bien les recettes des cuisines des années 20 et des années 30, si vous en trouvez. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, on ne cuisinait pas pareil, on cuisinait essentiellement local, on n'avait pas les mêmes énergies, on n'utilisait pas autant le gaz, le pétrole, donc Il y a beaucoup à étudier de ce qui était fait auparavant, du dégagement de CO2 de ce qui était fait auparavant, à comparer avec notre mode de consommation moderne. Et de là, c'est aussi un moyen de réactiver de l'amour hein, de nos grands-parents, leur dire ah ben bon, bon, il y en a beaucoup qui ont disparu déjà, mais de restaurer de ces recettes-là, de se régaler avec, ça va faire de l'intergénérationnel, puisque si on ne l'a pas précisé, bien sûr qu'il y aura des personnes âgées aussi sur Existence B. L'idée, c'est que on ait des jeunes, des vieux, que ce soit que ces 150 à 200 personnes soient le plus représentatives possible de la sociologie française. Donc l'intergénérationnel est important. On mange en intergénérationnel. Il n'y a rien de tel que se régaler avec des recettes de cuisine des grands-parents, et notamment en plus quand on s'aperçoit que ces recettes-là, elles étaient pour l'écologie, la systémique de l'écologie, nettement plus cohérente avec les écosystèmes que le sont aujourd'hui nos recettes.
Pour le moyen projet, donc pour l'entreprise, on va créer une page sur le site Mimosa. Je ne sais pas si vous connaissez, pour faire une levée de fonds. On vous relayera pour ceux qui sont intéressés, qui nous le feront savoir. Et l'idée, c'est si vous pouvez relayer à votre tour la page qu'on va créer pour pouvoir financer l'achat des semences, déjà de chanvre, le matériel à acheter, pour qu'on puisse lancer le projet. Tout l'objectif, en fait, c'est vraiment qu'on essaye d'être finalement le plus autonome et émancipé possible, y compris sur l'aspect financier, même si on est quand même aussi en train de chercher des fonds privés et des fonds publics, comme on vous l'a dit.
Ouais, pour relayer la page de financement participatif, on verra, on fera un point avec l'administration, mais normalement ça devrait être bon. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on évitait de faire. Mais on en reparlera si on peut le faire.
D'accord.
Ok.
Ok. Pour le gros projet, on est en train de chercher, nous, des modes de financement. D'ailleurs, j'ai mis ça au singulier, mais c'est plutôt des modes. Et on a la recherche d'un terrain. Donc ça, ceux qui suivent le projet l'ont probablement vu. C'est tous les critères du terrain idéal, on les a mis sur le site. Et on a d'ailleurs régulièrement des personnes qui nous font part de terrains éventuellement possibles. Donc voilà, en tout cas, c'est les besoins sur ce gros projet. Mais bon, comme vous avez compris, on continue à beaucoup travailler sur ce projet-là. Et puis très concrètement, on est aujourd'hui quand même sur le développement des ateliers et de l'entreprise. On continue à travailler sur celui-là, hein, bien sûr. Pour les questions, vous...
Et donc les ateliers qui ont lieu.
Les avez, on va continuer, en fait, sur les questions maintenant.
Oui, nous, on a fini notre présentation.